France Musique. Voici tout de suite Jean-Baptiste Urbain pour un Musique Matin en direct et jusqu'à 9h.
Merci beaucoup et bonjour à tous. Et merci d'avoir choisi France Musique. Nous sommes ensemble en effet jusqu'à 9h. Enfin, les musiciens reviennent dans les salles de concert. À l'initiative de la violoniste Lia Petrova, une Beethoven Fest parisienne aura lieu demain et vendredi, salle Corto. Sans public, certes, mais avec les micros de France Musique. Lia Petrova est notre invitée à 8h50. Un orchestre bolivien confiné depuis plus de 2 mois dans un château allemand entouré par des loups. On dirait un titre de journal à sensation. Pourtant, c'est une histoire vraie. Sophie Anastasio nous la raconte à 9h20. Le roi du tweet, pris en flagrant délit de fake news par le réseau qu'il affectionne, Donald Trump, enrage contre Twitter. C'est l'un des titres développés par Olivier Denré dans son journal à 8h30. Et puis, c'est une filière européenne unique en son genre. Un doctorat franco-allemand d'interprétation et de composition est créé à l'Université de Strasbourg. Les inscriptions viennent d'ouvrir. Suzanne Gervais nous en parle. Rendez-vous à 8h25.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique, êtes-vous bien disposé? On ouvre avec Bizet. Thank you. Un Georges Bizet peu connu pour commencer ce matin le deuxième mouvement Allegro Vivace de sa fantaisie symphonique, sa symphonie ou souvenir de Rome ou Roma, inspiré par son voyage en Italie qu'il fait quand il remporte Georges Bizet son concours, son prix de Rome plutôt en 1857. C'était l'orchestre de Paris dirigé par Pavot Hiervi. Cet orchestre de Paris, il est de retour sur scène lui aussi, sa scène de la grande salle Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris. L'événement c'est ce soir sans public mais avec les caméras de la Philharmonie, et c'est donc à voir en direct à 20h30 sur le site de la grande institution parisienne. Mais en formation de chambre, Siegfried Idyll, ce cadeau d'anniversaire de Wagner pour sa femme Cosima, pour 13 instruments, l'enchantement du vendredi de Parsifal, également du même Wagner, et puis le sextuor extrait du Capriccio de Richard Strauss. 37 musiciens, tous volontaires au total, et comme on pouvait le lire hier dans le quotidien Le Monde, il y aura 1,50 m entre les cordes, 2 m pour les vents, certains équipés de plexiglas, et pour les cuivres, des tissus au sol afin de recueillir le liquide sécrété par la condensation du souffle sur les parois de l'instrument. Quant à la flûte solo, elle jouera avec une visière. On y revient sur ces concerts qui reprennent à la Philharmonie de Paris avec Guillaume Thion de Libération dans sa chronique après-demain, vendredi. Étonnante, bien étonnante, cette étude menée par l'université de médecine d'Albany en Californie. 36 rats ont été exposés à Beethoven et à Miles Davis. On a suivi leur comportement. Résultat, ils préfèrent Beethoven à Miles Davis, même si ce qu'ils préfèrent encore plus, précise l'étude, c'est le silence. Et puis ensuite, on les a drogués, ces rats. On leur a donné de la cocaïne. Et là, ils ont préféré se diriger vers l'enceinte qui diffuse le génial jazzman, Miles Davis. Donc, et le résultat de l'étude, c'est que même ensuite, quand on ne leur donne plus de drogue, eh bien, les rongeurs continuent de préférer le jazz. Qu'en conclure? Aucune idée. Eux aimaient en tout cas le bourbon, avec ou sans modération. Voici trois membres du Rat Pack. Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr.
A troop of strolling players are we, not stars like L.B. Mayers are we, but just a simple band who roams about the land, dispensing fol-de-rol frivolity. Mere folk who give distraction are we,
new theater give attraction are we.
Oh, shut up, Sam.
But just a crazy group that never ceases to troop around the map of little Italy.
Well, here we go back to the home country again.
We open in Venice, we next play Verona, then on to Cremona.
Lots of laughs in Cremona, hey boy.
Our next jump in Parma, that dopey mopey menace, then Mantua, then Padua, then we open again. Where? We open in Venice, we next play Verona, then on to Cremona.
Lots of bars in Cremona.
Our next jump in Parma,
that fearless, cheerless menace,
then Mantua, then Padua,
then we open again.
Where? We open in Venice, we next play Verona, then on to Cremona.
Lots of money in Cremona.
Our next jump in Parma,
that dingy, smingy menace,
then Mantua, then Padua,
and we open again.
Where? We open in Venice, we next play Verona, then on to Cremona.
Lots of quail in Cremona.
Ha! Our next jump in Parma, that heartless, artless menace, then Mantua, then Padua, then we open again. Where?
Well, let me see now. I got a map. Let's pick out someplace.
Yeah, well, just don't take it too far down the line there.
Oh, well, let's take the first canyon out of here.
Matter of fact, if we hurry, we can beat the tab. Of course, yeah. The sheriff's out there waiting for us.
We open in Venice, extrait de Kiss Me Kate. Il fait beau sur la France, il fait beau sur France Musique, cette comédie musicale de Cole Porter avec Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr., le Rat Pack, des membres du Rat Pack, comme on le disait. Alors, on parlait il y a quelques minutes du concert en direct sans public ce soir à la Philharmonie de Paris. Eh bien, c'est aussi ce soir que débute le festival Artistes en Résidence, Artistes en Résistance. C'est à l'Opéra de Dijon. Ça va durer beaucoup de semaines, plusieurs semaines, jusqu'au 6 juillet. Une quarantaine de concerts à voir en streaming avec des musiciens en résidence, donc à l'Opéra de Dijon. Et puis des invités également. On en parlait ici même d'ailleurs la semaine dernière avec le violoniste David Grimal. À partir de ce soir et pour une semaine, c'est le chef Leonardo Garcia Alarcón qui a les rênes de la programmation avec 5 concerts. Ça commence ce soir avec un programme de madrigaux italiens et France Musique sera présent. France Musique va enregistrer plusieurs de ses concerts de ce festival Artistes en résidence, Artistes en résistance. Ce soir donc madrigaux italiens avec Leonardo Garcia Alarcón, concert diffusé prochainement sur notre antenne. Ce matin, Leonardo Garcia Alarcón dirige Mozart. Mozart, le presto de sa 35e symphonie, c'était le Millennium Orchestra, dirigé par Leonardo Garcia Alarcón, le chef argentin qui reprend du service donc dès ce soir à l'Opéra de Dijon pour cette série de concerts que suivra France Musique et qu'enregistrera France Musique avec l'Opéra de Dijon donc. Comme tous les jours, c'est une voix de France Musique qui choisit pour nous une musique. Donc ce matin, c'est notre chroniqueur écho Antoine Pecker. Son billet, c'est tous les lundis en temps normal, en tout cas en temps habituel sur France Musique. Antoine, également directeur de la rédaction de la Lettre du Musicien et aussi, tiens, bassoniste.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Mon coup de cœur, c'était un concerto d'Antonio Vivaldi. Alors on l'ignore trop souvent, Antonio Vivaldi a composé 39 concertos pour le basson, le plus grand nombre après les concertos pour violon. Vivaldi aimait le basson en mettant en avant à la fois le potentiel virtuose mais également expressif de cet instrument. Mais alors ce n'est pas un simple concerto pour basson que j'ai choisi de vous faire entendre ce matin, mais un concerto, le concerto pour hautbois et basson, une combinaison encore plus originale, encore plus rare. Vivaldi sait mettre ensemble ces deux instruments proches, évidemment, de par leur système même, puisque les deux instruments fonctionnent avec des anges doubles, mais différents en termes de tessiture, avec l'aigu charmeur du hautbois et les graves plus capiteux du basson. Alors, Vivaldi sublime cette alliance instrumentale, d'autant plus grâce à cet enregistrement avec le hautboïste Hans-Peter Westermann, qui a longtemps été le hautboïste du Concertus Musicus de Vienne, l'orchestre de Nicole Sardoncourt, et à ses côtés, le bassoniste italien Sergio Azzolini, qui est juste fantastique. Sergio Azzolini qui s'amuse à réinventer, à théâtraliser les phrasés, les articulations, les dynamiques de Vivaldi. Et puis une petite pensée pour tous les amis instrumentistes avant, des instruments un peu brocardés ces derniers temps, dans différentes études sur les risques sanitaires de la pratique musicale. Alors plus que jamais, soyons résilients, soyons résistants, amis souffleurs. Et puis une dernière pensée pour Jean-Baptiste Urbain qui a repris ces derniers temps le hautbois, pour ma part le basson. Donc peut-être un jour nous allons jouer ce concerto pour hautbois et basson de Vivaldi. Mais en attendant, écoutons la version de Hans-Peter Westermann et de Sergio Azzolini.
Thank you.
la musique de Vivaldi, le premier mouvement de son concerto pour hautbois et basson, ou basson et hautbois, comme vous voulez, en sol majeur en tout cas, Hans-Peter Westermann au hautbois, Sergio Azzolini au basson, et l'ensemble Sonorati della Gioiosa Marca, le choix d'Antoine Pecker ce matin, avec qui je doute un jour de pouvoir jouer un duo comme ça, mais l'espoir fait vivre. France Musique, 8h22. Quelques mesures, le tout début des scènes de chasse de René Koering en 2008 avec l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Alain Altinoglu. René Koering, 80 ans aujourd'hui, compositeur, fondateur aussi, directeur pendant longtemps du festival Radio France Occitanie Montpellier et voix également de France Musique avec sa belle voix grave. Bon anniversaire à vous, René Koering, qui, je le sais, nous écoutait le matin. Alors, elle, je ne sais pas si c'est le cas, Didi Bridgewater, en tout cas, elle aussi, c'est son anniversaire. 70 ans, happy birthday, Didi.
A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I wrote a letter to my mommy on the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She went trucking on down the avenue without a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it in my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I would die. Tisket, a tasket, I lost my yellow basket. And if that girl it don't return it, I don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be.
So do we, so do we, so do we, so do we, so do we.
Tisket, a tasket, c'est une comptine enfantine transformée en standard de jazz par Ella Fitzgerald et interprétée ici par Didi Bridgewater, 70 ans aujourd'hui. Elle aussi, elle a changé de design il y a quelques jours, voici Suzanne Gervais. Mais on n'en dira pas plus. Bonjour Suzanne.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Direction Strasbourg ce matin où le conservatoire et l'université lorgnent vers l'Allemagne.
Oui, Strasbourg, ville européenne, bien sûr, Strasbourg, ville musique, Strasbourg où les musiques contemporaines sont particulièrement vivantes, chères au public, avec le festival Musica, mais pas seulement. La création foisonne depuis plusieurs décennies, on peut même dire plusieurs siècles, sur les bords du Rhin. La classe de composition du Conservatoire et de la Haute École des Arts du Rhin, qui est dirigée par Daniel D'Adamo, est l'une des plus réputées de France. Les étudiants compositeurs travaillent notamment avec toute la communauté des ensembles strasbourgeois spécialisés dans la création, ce qui crée un des écosystème plus que propice à l'expérimentation musicale. Et cet écosystème strasbourgeois, il bénéficie de la proximité, bien sûr, de l'Allemagne, un voisinage européen qui va être incarné dans l'ouverture d'un doctorat binational à la rentrée de septembre. Figurez-vous que c'est le tout premier doctorat franco-allemand, un doctorat non pas de musicologie, mais d'interprétation et de composition, et ça c'est inédit. Il est piloté par 4 institutions, l'Université et la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, et l'Université et la Musikhochschule de Freiburg, à peine 100 km séparent ces deux villes frontalières. Le cursus dure 3 ans, et comme tout bon doctorat, il aboutit à la remise d'une thèse. Le but, c'est que les Français passent quelques semestres en Allemagne et vice-versa. Le doctorat est ouvert aux compositeurs qui souhaitent développer un projet de recherche dans le cadre de l'écriture d'une pièce. Le prérequis pour les intéressés, c'est d'avoir un master de composition. Les inscriptions sont ouvertes et le nom des candidats retenus sera connu fin juin. On souhaite en tout cas bon vent à ce doctorat franco-allemand et je salue pour ma part cette initiative profondément européenne. Si les frontières entre pays de l'Union sont pour l'heure fermées, rappelons que les jeunes musiciens français sont de plus en plus nombreux à partir dans le cadre du programme Erasmus et ce doctorat offre une nouvelle opportunité aux jeunes compositeurs. Il va sans dire que quelques mois passés à l'étranger délient l'oreille et la créativité, mais donne aussi un nouvel horizon professionnel et confronte à un plus large marché du travail. N'oublions donc pas que l'Europe est aussi musicale et que ce sont les musiciens qui, les premiers, dès l'époque baroque, ont incarné l'esprit européen.
Et que l'Europe est aussi musicale, Suzanne Gervais, Musique Connectée, c'est à réécouter, à lire aussi sur francemusique.fr. À demain, Suzanne.
À demain.
Vous parliez de Fribourg, voici le célèbre orchestre baroque de Fribourg. Il joue un grand opéra européen de la musique, né en Allemagne, parti en Angleterre, c'est Handel. Si vous n'êtes pas réveillé, vous l'êtes désormais, si vous ne l'étiez pas, Handel, la bataille à l'acte 3 de Rinaldo, l'orchestre baroque de Fribourg, dirigé par René Jacobs.
Musique Matin, Jean-Baptiste Urbain.
Des musiciens de retour, salle Cortot à Paris, la violoniste Lia Petrova lance une Beethoven Fest, sans public mais avec les micros de France Musique. Elle est notre invitée à 8h50. C'est un disque qui a 30 ans et pas une ride, réédité aujourd'hui, Les Vêpres de Monteverdi, dirigé par John Eliot Gardiner et enregistré à la Basilique Saint-Marc de Venise. C'est notre disque du jour. Rendez-vous à 8h moins le quart, à 9h moins le quart plutôt. Et puis quand des musiciens boliviens se retrouvent dans un château du XVIe siècle, en Allemagne depuis plus de 2 mois, et qu'en plus le château est entouré par des loups, forcément on a envie d'en savoir plus, ce sera dans 10 minutes avec Sofia Anastasio. Mais pour l'heure, il est 8h30. Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. L'Europe va-t-elle réussir à jouer l'unité pour relancer son économie durement secouée par la pandémie de coronavirus? C'est tout l'enjeu du plan concocté par la Commission de Bruxelles. Il est officiellement présenté d'ici quelques heures afin d'éviter une récession sans précédent. Il rejoint en partie la proposition formulée la semaine dernière par le couple franco-allemand, une initiative qui n'a pas suscité l'enthousiasme général, les pays du Nord n'ayant pas très envie de mettre la main au porte-monnaie pour soutenir les États du Sud. À Bruxelles, c'est une correspondance d'Angélique Boin.
Un plan de l'ordre de 1000 milliards d'euros composé à la fois de prêts aux États mais aussi d'aides directes non remboursables comme le préconisent Paris et Berlin. Une aide qui doit aller en priorité aux régions et secteurs abîmés par la pandémie, tourisme, automobile ou encore culture. Pas question non plus de la distribuer sans garantie. Les États bénéficiaires devront investir dans des projets verts ou numériques, deux priorités de la Commission. Enfin, il faudra s'engager à des réformes sans pour autant être mis sous tutelle. Des milliards qui seront empruntés par la Commission européenne à un taux réduit grâce à son triple A, une dette commune donc, mais c'est là que la proposition est innovante, ce sera le futur budget européen qui remboursera après 2027. Et pour alléger la contribution des États, d'ici là la Commission entend bien se doter de nouvelles ressources propres, taxes plastiques ou taxes carbone aux frontières par exemple. On ne manque pas d'idées, confie une source européenne, ce ne serait donc pas aux contribuables du Nord de payer pour le Sud, reste à les convaincre, la négociation ne fait que commencer.
8 milliards d'euros pour soutenir le secteur automobile français. L'exécutif met en place des primes importantes pour permettre de vider les parkings des concessionnaires. Il faut vendre le stock avant de relancer la production. Des centaines de millions d'euros vont également être investis par l'État pour encourager la relocalisation et le made in France. Il y aura aussi de l'argent pour accélérer la production dans l'hexagone de voitures hybrides et électriques. Ces mesures inquiètent Greenpeace et la fondation Nicolas Hulot. Les ONG considère que le pouvoir politique fait fausse route. Elle dénonce des mesures contre-productives. La CGT, pour sa part, du secteur automobile, évoque des milliards d'euros de cadeaux pour le patronat et redoute une vague de licenciements dans le secteur. À ce propos, on notera ce matin cette information du Figaro. Le quotidien affirme que le groupe Renault prévoit de supprimer 5000 emplois en France d'ici 2024. Des suppressions de postes prévues dans le cadre d'un plan d'économie qui doit être officiellement présenté dans deux jours. Plusieurs enseignes de vêtements sont elles aussi très mal en point à cause de la crise sanitaire. C'est notamment le cas de l'entreprise de prêt-à-porter Camailleux. Elle vient d'être placée en redressement judiciaire. Elle emploie près de 4000 personnes. Le ministre de l'économie précise à l'instant que l'État cherche un repreneur pour Camailleux. Sachez encore que c'est aujourd'hui que le Parlement se prononce sur la fameuse application Stop Covid. Elle devrait pouvoir être téléchargée dès le week-end prochain sur nos téléphones portable. La CNIL a donné hier son feu vert après des essais jugés concluants par les militaires. Cette application permettra à son utilisateur de savoir s'il a croisé ou non une personne contaminée par le coronavirus. Faites vos jeux, rien ne va plus entre Donald Trump et Twitter. Le président américain accuse le réseau social, dont il est pourtant un adepte patenté, d'interférer dans la présidentielle à venir. Twitter étouffe la liberté d'expression, a-t-il réagi en lettres capitales. Pour la première fois, deux tweets du locataire de la Maison-Blanche ont en effet été signalés comme trompeurs par l'entreprise, dont le siège social se trouve en Californie, d'où nous appelle Loïc Piala.
Donald Trump assure dans ses deux tweets que le vote par correspondance est la porte ouverte à la fraude et à une élection truquée. Le lien ajouté par Twitter au bas de ses messages renvoie vers une page rappelant que rien ne prouve ces allégations, article de presse à l'appui. Si le site s'en prend régulièrement aux utilisateurs lambda, violant son code de conduite, il a longtemps épargné les chefs d'État. Leurs tweets ont une valeur d'information, explique Twitter. Une approche souvent critiquée, mais cette intervention marque peut-être un virage stratégique. Elle arrive aussi alors que le président relaie une énième théorie du complot depuis plusieurs jours. Il suggère que Joe Scarborough, animateur de télévision jamais tendre avec lui, est mêlé à la mort d'une jeune femme remontant à 20 ans. Le caractère accidentel de son décès n'a pourtant jamais fait de doute pour les enquêteurs. Le veuf de cette jeune femme a donc publiquement demandé à Twitter d'effacer les messages en question. Le réseau social s'y refuse pour le moment.
Donald Trump, qui sera présent aujourd'hui au Centre spatial Kennedy en Floride, il assistera au décollage de deux astronautes de la NASA qui vont rejoindre la station internationale en orbite autour de la Terre. Ces deux hommes, c'est une première, seront transportés par une fusée privée construite et lancée par la société SpaceX du milliardaire Elon Musk. 900 talibans viennent de retrouver la liberté en Afghanistan. Les autorités de Kaboul espèrent que ce geste permettra de prolonger un cessez-le-feu ordonné il y a quelques jours par la principale force d'opposition. Quelques nuages sur le Gers et sur le sud de l'Aquitaine. Des averses sont possibles sur les Pyrénées, la Corse et les Alpes du Sud, mais dans l'ensemble, c'est encore une très belle journée. Les températures de 7 à 19 degrés ce matin, de 22 à 30 degrés cet après-midi. Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré. À demain, Olivier. Il avait appelé son violoncelle Dupré, car l'instrument qu'il jouait avait appartenu à Jacqueline Dupré avant lui. Linarelle était un grand violoncelliste, d'abord musicien d'orchestre à New York, puis à Cleveland. Un prof aussi qui a formé des générations de solistes, et puis lui-même était un soliste et un chambriste parmi les plus grands. Linarelle s'est éteint le mois dernier à l'âge de 76 ans. Toute la semaine, François-Xavier Chemchak rend hommage au violoncelliste américain que voici avec James Levine au piano. Il joue Debussy. Debussy, le final de sa sonate pour violoncelle et piano. Linarelle au violoncelle, James Levine au piano. Linarelle à l'honneur toute la semaine dans les arabesques de François-Xavier Chemchak. C'est à 13h30. France Musique, 8h40. L'heure de Classique Info avec Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec Franck Riester, interviewé sur France Info. Il a évoqué la possibilité d'une réouverture progressive des salles de spectacle dès le mois de juin.
Le ministre de la Culture a indiqué que le gouvernement étudiait des scénarios en vue de la nouvelle phase de déconfinement le 2 juin, avec donc peut-être une réouverture progressive des salles de spectacle. Ce n'est pas encore décidé, mais des annonces sur ce sujet doivent être faites demain à l'issue du Conseil de défense.
Et en Autriche, où la culture se déconfine à partir de ce week-end, le Musikverein de Vienne s'apprête à recevoir à nouveau du public.
100 spectateurs par représentation pendant le mois de juin, ça commence le vendredi 5 avec Daniel Barenboim à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne.
Le site Olyrics publie une enquête sur la rémunération des artistes lyriques pendant le confinement.
12 institutions lyriques ont été interrogées par le site avec un premier constat, la très grande majorité des maisons d'opéra françaises a honoré les contrats signés. Les salaires des permanents ont été maintenus et pour les solistes, 3 critères ont été retenus pour calculer leur cachet. Le travail déjà effectué, une éventuelle reprogrammation du projet et le niveau global de rémunération. Avec pour toutes ces institutions, 2 facteurs fondamentaux, son niveau de subvention et la possibilité de recours au chômage partiel. C'est ce qui a par exemple bloqué à l'Opéra de Bordeaux. L'Opéra de Paris fait figure d'exception, peut-on lire. Plusieurs artistes témoignent d'une absence totale d'indemnisation.
Le ténor Andrea Bocelli déclare avoir été contaminé début mars par le coronavirus.
Il s'agissait d'une forme légère. Le chanteur évoque un cauchemar pour lui et sa famille. Nous avons tous été contaminés. Aujourd'hui guéri, lui et son épouse se sont rendus à l'hôpital de Pise pour un don de plasma en faveur de la recherche sur la Covid-19.
Et on termine avec le confinement hors norme, celui d'un orchestre bolivien enfermé dans un château allemand du XVIe siècle. Si, si, c'est vrai, entouré, qui plus est, par des loups.
Cela fait près de 80 jours que les musiciens de l'Orchestra Experimental des Instrumentos Nativos de La Paz, qui devaient jouer dans un festival, sont confinés dans un château au nord-est de Berlin. Pour le moment, et malgré de nombreuses tentatives, un retour en Bolivie semble inenvisageable. Les frontières du pays sont toujours fermées. Et dans le château, en plus des loups, des couloirs qui seraient hantés, il y a les frais mensuels de logement, 35 000 euros, qui sont payés par plusieurs organismes allemands.
Et si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, moi qui me passionne, il y a un article à lire sur francemusique.fr signé Léopold Tobiche. Merci beaucoup Sophie Anastasio, à demain.
À demain.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Notre disque du jour, c'est une réédition aujourd'hui, un enregistrement d'il y a 30 ans. En fait, tout commence en 1964. John Eliot Gardiner est étudiant au King's College de Cambridge. Il livre alors son interprétation des Vêpres de Monteverdi. Sa carrière est lancée, il donne le nom du compositeur Monteverdi à son chœur qui devient mondialement célèbre. 25 ans plus tard, pour l'anniversaire justement de son chœur Monteverdi, Gardiner enregistre ses Vêpres là où Monteverdi était maître de chapelle, à la basilique Saint-Marc à Venise. C'est cet album qui est réédité avec en plus le DVD du concert capté à l'époque par la BBC. Le texte de présentation également de Gardiner issu de la version originale. Alors, des Vêpres de Monteverdi, il y en a eu d'autres enregistrées depuis, super, mais encore récemment. Mais il y a sur ce disque une grandeur, des volumes sonores qui demeurent, je trouve, inégalés. et la résonance dans la basilique Saint-Marc de Venise. Nisi Dominus, extrait des Vêpres de la Vierge de Monteverdi. Le Monteverdi Choir, le chœur oratorio des jeunes de Londres et les English Baroque Soloists, dirigés par John Elliott Gardiner. Ça vient d'être réédité chez Deutsche Grammophon. France Musique, 8h49.
Musique Matin, le 8-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
L'heure de notre invité qui est ce matin la violoniste Lia Petrova. Bonjour.
Bonjour.
À l'heure où la plupart des festivals de l'été ont renoncé, vous lancez un mini-festival. C'est demain et vendredi à Paris, Salle Cortot, une Beethoven Fest parisienne sans public. Mais France Musique sera là pour les enregistrer, ces concerts. Il y aura également les caméras de France Télévisions. Ce sera d'ailleurs les tout premiers enregistrements des équipes de Radio France depuis le début du confinement, début mars. D'abord, Lia Petrova, à la veille de rejouer dans une salle certes sans public, quel est votre sentiment? Vous avez le trac?
Je dois dire que je suis plutôt très heureuse, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas pu être sur scène, et c'est un moment très spécial. Je pense que pas seulement pour moi, mais pour tous mes collègues, même d'avoir répété, de se retrouver pour jouer ensemble, même sans le public, et sans les caméras et sans les micros, déjà c'était un moment tellement émouvant.
Qui sont les musiciens qui vont jouer avec vous d'ailleurs, Lia Petrova? C'est des jeunes musiciens français?
Exactement. C'est pas par hasard, on est tous jeunes. C'est les générations autour de mon âge. C'est tous mes amis. On aura 5 pianistes, 4 violoncellistes, 3 violonistes. Et puis on a même 2 quatuors qui sont à nos côtés.
Comment vous avez venu l'idée de cette Beethoven Fest, un peu comme celle qui a lieu à Bonn? Vous aviez peur, je me souviens que c'est Anne Kefelec qui nous disait que le Covid a privé Beethoven de son anniversaire. C'est pour que Beethoven soit fêté quand même.
Exactement. Je me suis dit que c'est dommage finalement de se retrouver avec 2 mois et demi de fête de cette musique incroyable au lieu de 12. Du coup, c'était une bonne occasion pour moi. Je me suis dit, en plus j'adore Beethoven, je pense comme nous tous, et je me suis dit que sa musique, je sais pas, c'est une musique je trouve qui donne de l'espoir aussi. Il était humaniste et puis lui-même, il a vécu des moments très difficiles qu'il a dû surmonter et puis continuer. Et je me suis dit que ça va bien avec cette situation qu'on est obligé de vivre en ce moment.
Lia Petrova, vous avez, j'imagine, répété ces derniers jours avec les autres musiciens. Vous allez jouer très concrètement, pratiquement, avec une distance inhabituelle entre vous pour de la musique de chambre?
Oui, bien sûr, on va respecter les distances nécessaires de au moins 1,5 mètre. Mais en même temps, on est en train d'expérimenter, peut-être se mettre en cercle ou quelque chose comme ça. De toute façon, je pense que Salle Cortot est une salle magnifique avec une acoustique qui est pas du tout difficile, même au contraire, c'est très très agréable de jouer là-bas. Et je pense surtout le joie de se réunir qui va être la chose la plus forte.
Enregistrement demain et vendredi, Salle Cortot à Paris. Exactement. En effet, vous l'avez dit, acoustique superbe pour la musique de chambre. Et il faut noter, diffusion sur France Musique, les 15, 16 et 17 juin. Lia Petrova, ça c'est demain et vendredi. Mais pour les prochains mois, vous, quelles sont les perspectives?
Je dois dire que, évidemment, le plan initial d'avoir un été rempli de concerts, évidemment, ça ne sera pas pareil. Mais bon, heureusement, il y a quand même quelques initiatives de concerts qui restent, même si c'est toujours sans public et diffusé, notamment le Festival des Lions qui va faire quelques concerts. Je suis heureuse de pouvoir aller à Lyon et jouer dans cette aussi magnifique salle, même vide, un concert de musique de chambre. Puis j'espère faire un peu de vacances, des vraies vacances, mais peut-être pas à la maison.
Ouais. Evian, ça se sera sans public début juillet, mais il y aura peut-être, on en reparlera sur France Musique ces prochains jours, des concerts avec du public quand même cet été. Pour finir, un mot du disque, Beethoven, on en parlait, vous l'avez enregistré sur un disque paru il y a quelques mois. D'ailleurs, pourquoi le rapprocher de Barber et de Britten, en quelques mots?
En fait, c'était un choix plutôt personnel. Je cherchais, c'était 2019, c'était une année qui était comme un peu comme un moment tourneur de ma vie. Puis j'ai cherché des compositeurs et des œuvres, surtout qu'ils ont écrit dans un moment pareil des vies des compositeurs. Ça, c'était en 2019. Je ne m'attendais pas qu'en 2020, ça va encore beaucoup changer, évidemment avec le Covid-19. Mais en tout cas, voilà, c'était et les 2 sonates de Beethoven et les suites de Britten et la sonate de Barber, ils étaient écrits dans un moment tourneur de la vie des compositeurs qui dans le cas de Brixen et Barba, c'était la fin de leurs études, et le moment qu'ils ont vraiment commencé leur carrière. Puis Beethoven, c'est évident, il a écrit ses deux sonates quand il a appris qu'il va être sourd, c'est un sacré tourment.
Les 3B, Barber, Britten et Beethoven, le disque est sorti, il est disponible avec Boris Kouznetsov au piano. On va en écouter un extrait. Je vous souhaite d'abord un très beau Beethoven ou une très belle Beethoven Fest Salle Cortot à Paris. Merci. Demain et vendredi, diffusion sur France Musique les 15, 16 et 17 juin. Merci. Beethoven, le final, Allegro vivace de la 8e sonate pour violon et piano, Lilia Petrova au violon, Boris Kouznetsov au piano. C'est un disque, une nouveauté, paru chez Mirare. C'est la fin de Musique Matin. José Bernaz et Emmanuel Dupuis étaient à la technique, Yacine Bouzard à la réalisation, Marion Guillemet avec Taïsia Froidure et Margot Muller à la coordination. Les voici, les voilà. En piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmy, alors au programme, je vois un quatuor à cordes, mais à cordes pincées.
Ah oui, je le quatuor Eclipse, ça m'étonne pas. Puis en plus, on aime doublement parce que c'est un disque autour de l'Espagne.
Ah bah oui, ça vous touche.
Donc c'est un très très beau disque. Et puis on commencera l'émission aussi avec un disque pour les enfants. C'est un peu pour Émilie que je l'ai choisi.
Bonjour.
Bonjour, elle est là. Hein.
Bonjour papa,
elle
bonjour
est là.
Maman.
Vardoui Yeritsian, un disque autour de la musique de l'enfance.
Bon, à demain.
Ça promet. Hein.
Oh là là.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.